Les aventures de Tom Sawyer, chapitre 22, Les voies de la Providence. Séduit par la splendeur du costume d'apparat des cadets de la tempérance, Tom se fit inscrire comme membre de la confrérie. Il lui fallut promettre de s'abstenir de fumer, de chiquer, de boire, de blasphémer, et de jurer aussi longtemps qu'il en ferait partie. À cette occasion, il fit une découverte. Il apprit que le meilleur moyen de donner aux hommes l'envie de faire une chose, c'était d'exiger d'eux la promesse de ne pas la faire. Tom fut bientôt en proie à une violente envie de boire et de jurer. L'envie prit de telles proportions que seul l'espoir qu'il avait de parader un jour en public avec sa ceinture rouge l'empêcha de donner sa démission. Mais pour revêtir son beau costume, il fallait un prétexte. À vrai dire, le 4 juillet, fête de l'indépendance, était proche. Néanmoins, il renonça bientôt à attendre jusque-là. Il y renonça alors que la durée de son abstinence n'avait pas encore atteint 48 heures, pour tabler sur les obsèques du vieux juge de paix, Fraser. Ce brave homme était déjà l'article de la mort, et en raison des hautes fonctions qu'il avait exercées, il aurait vraisemblablement des funérailles officielles. 3 jours durant, Tom prit à l'état de santé du juge un intérêt considérable. Il demandait tout le temps de ses nouvelles. Quelquefois, ses espoirs paraissaient si près de se réaliser qu'il se risquait à sortir ses insignes de l'armoire et à les essayer devant la glace. Mais la maladie du juge avait des hauts et des bas qui défiaient toutes les prévisions. Un beau jour, il alla mieux et finit par entrer en convalescence. Tom était complètement écœuré. Ce n'était pas Dieu. Sur le champ, il envoya sa démission. La nuit suivante, le juge eut une rechute et mourut. Du coup, Tom perdit toute confiance dans les grands hommes. L'enterrement fut magnifique. Les cadets, en grande tenue, défilèrent avec un éclat qui faillit faire périr de jalousie le membre des missionnaires. Encore Tom avait-il recouvré son indépendance, et cela, c'était bien quelque chose. Il avait désormais toute latitude de boire et de fumer à sa guise. Or, à sa grande stupeur, il constata que, maintenant qu'on ne le lui interdisait plus, il n'en avait plus envie. Décidément, l'attrait du fruit défendu n'était pas un vain mot. Tant qu'il était en classe, il avait ardemment désiré être en vacances. Dès lors qu'il était en vacances, il ne savait plus quoi faire de son temps. Il essaya de tenir un journal. Mais pendant 3 jours consécutifs, il ne lui arriva rien. Il n'eut rien à y mettre et abandonna ce beau projet. Une troupe de chanteurs des rues, la première qui soit venue dans le village, donna quelques spectacles et fit sensation. Aussitôt Tom et Joe Harper mirent sur pied un orchestre d'exécutants. Cela les occupa pendant 48 heures. La date glorieuse du 4 juillet lui infligea une nouvelle déception. La pluie tomba à seaux. Il n'y eut pas de défilé. Autre et profonde déception pour Tom. M. Burton, sénateur des États-Unis, que Tom croyait être le plus grand homme du monde, n'avait pas 8 mètres de haut, ni même quelque chose d'approchant. Un cirque s'installa. Pendant les 3 jours qui suivirent les représentations, les gamins jouèrent au cirque sous des tentes faites de vieux tapis en loques. Prix d'entrée, pour les garçons, 3 épingles, pour les filles, 2. Le cirque, lui aussi, passa de mode. Un phrénologue, puis un magnétiseur, donnèrent quelques séances. Ils laissèrent, en s'en allant, le village plus triste, plus morne que jamais. Il y eut plusieurs réceptions auxquelles jeunes filles et jeunes gens étaient invités. Pour réussies qu'elles aient été, elles ne firent que rendre plus lugubres encore les intervalles qui les séparaient. Becky Thatcher était partie passer les vacances à Constantinople, dans le Missouri, avec ses parents. C'est dire que de nulle part, la vie ne présentait aucun bon côté. Quant au meurtre du docteur, La garde de ce secret était pour Tom un supplice quotidien, un vrai cancer pour la durée et l'acuité de la souffrance. Pour comble de malheur, une épidémie de rougeole fit son apparition. Pendant 2 longues semaines, Tom fut condamné à la chambre. Il ne sut plus rien de ce qui se passait dans le monde. Il était très malade. Il ne s'intéressait à rien. Quand il put se lever et recommencer quelques petites promenades en ville, il lui sembla que bien des choses avaient changé à leur désavantage. Une mission religieuse avait donné une série de sermons. Tout le monde était devenu pieux. Non seulement les grandes personnes, mais même les garçons et les filles. Tom erra, ça et là, espérant, contre toute espérance, faire la rencontre d'une phase de mécréants qui l'eût réconcilié avec ses semblables. Mais partout, une déception l'attendait. Il trouva Joe Harper en train d'étudier la Bible et se détourna de ce déprimant spectacle. Il alla voir Ben Rogers et le trouva en train de distribuer des brochures aux pauvres. Il relança Jim Hollis, qui attira son attention sur la faveur toute spéciale dont il avait été l'objet de la part du ciel, qui lui avait envoyé une rougeole au titre d'avertissement. Chaque camarade qu'il rencontrait faisait baisser d'un ton son état d'âme. Quand, de désespoir, il chercha auprès de Huckleberry Finn un ultime refuge et qu'il fut reçu à coups de citations des Saintes Écritures, il jeta le manche après la cognée et se rendit compte qu'il était à tout jamais seul en ville à faire figure de réprouvé. Cette nuit-là, il y eut une tempête épouvantable, accompagnée de pluies torrentielles, d'éclairs aveuglants, de coups de tonnerre à tout casser. Tom se cacha la tête sous ses couvertures et attendit que sa dernière heure ait sonné. Car il ne doutait pas un instant que toute cette mise en scène ne fût pour lui. À force de mettre à l'épreuve la patience des pouvoirs célestes, il s'était attiré leur colère. Il aurait trouvé extraordinaire que l'on déplaçât une batterie d'artillerie pour tuer une puce. Mais il trouvait toute naturelle l'entrée en jeu des forces de la nature pour mettre fin au jour de cet autre insecte qu'il était. Finalement, la tempête se calma, et quand elle eut cessé, Tom vivait toujours. Le premier mouvement du gamin fut de remercier la Providence et de prendre la résolution de s'amender. Le second fut d'attendre, car on ne savait jamais. Peut-être n'y aurait-il plus de tempête. Le jour suivant, le docteur revint. Tom avait eu une rechute. Les 3 semaines qu'il passa cloué au lit lui parurent interminables. Quand enfin il put se lever et sortir, il fut à peine reconnaissant au ciel de l'avoir épargné. Né en Dieu que pour son malheur et pour sa solitude. Dégoûté de tout, il descendit la rue et rencontra Jim Hollis, qui jouait le rôle du juge dans un tribunal juvénile qui condamnait un chat pour meurtre, en présence de l'oiseau, sa victime. Dans une petite ruelle, il surprit Joe Harper et Huck Finn en train de déguster un melon volé. Les pauvres, eux aussi, ils avaient eu une rechute.